Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de chèvres angora, de brebis limousines et depuis peu de brebis hampshire et fondatrice de l'atelier Fibrelaine. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Bienvenue dans le 6e épisode de ce podcast. Je suis ravie d'enregistrer à nouveau. Ça fait un petit moment que j'avais pas pris le temps, mais voilà. J'avais le choix ce matin entre plusieurs activités et j'ai décidé de faire un épisode. Donc au menu, à la ferme, je vais vous parler un petit peu du maraîchage, de ce qui se passe en ce moment sur les cultures légumières. Je vais vous parler un petit peu des savons que j'ai fait pour Noël, mes cadeaux de Noël et également pour les clients de la boutique à la ferme pour les remercier. Et je vais vous parler de mon chien de troupeau. À l'atelier Fibrelaine, ce sera beaucoup de tissage parce que je suis dans une période tissage et un petit peu de tricot machine pour faire des écharpes pareil pour mes ventes de Noël. Le petit segment lecture, ce sera sur Cœur de loup de R.D. Lawrence. C'est un petit livre très court que j'avais déjà lu et que j'ai relu. Je vous expliquerai pourquoi. Dans le segment curiosité, on va parler un petit peu des aliments fermentés et de mes premières expériences dans ce domaine. À la ferme. Donc là, on est presque fin novembre. Le champ de légumes a bien changé d'aspect. On est quand même vraiment rentré dans la période un petit peu hivernale. Donc les cultures qui restent dehors l'hiver, comme les carottes, les topinambours, les poireaux, les betteraves sont encore en place. Les choux chinois, les choux raves. Et par contre, on a enlevé les cultures d'été des serres. Donc tout ce qui est aubergines, concombres, petits pois et tomates. Donc cette année, ça a été une excellente année à tomates pour nous. On en a eu jusque la semaine dernière, en serre je parle. Et donc lundi, on a arraché les dernières tomates. Donc ça a vraiment vraiment été une réussite. Et cette année, Hugo, qui est plus gestionnaire, disons, je suis une petite main, a vraiment bien géré les cultures sous serre. Et cette année, c'est très joli parce que il y a énormément de choses. Donc il y a des choux, il y a des oignons blancs, il y a des épinards, des planches et des planches d'épinards. C'est vraiment délicieux l'hiver. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi c'est vraiment un légume. Je sens que quand j'en mange, ça fait du bien, quoi. Cette verdure en plein hiver, c'est vraiment, ça booste, quoi. Évidemment, il y a des salades et de la mâche. Ça, c'est une salade vraiment que j'adore, que je trouve très belle en plus de couleur, de forme. Enfin, c'est vraiment... Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans les serres. On a semé l'engrais vert pour protéger les planches où il n'y aura pas de culture cet hiver. On a replié les bâches des courges. Donc ça a vraiment changé d'aspect. Au niveau de la ferme, les bêtes sont encore dehors à pâturer. Les agnelles ont été mises à la reproduction, c'est-à-dire avec les béliers, il y a 15 jours. Les brebis vont bien aussi, elles sont encore dans les prés avec du foin. Et au niveau des cultures céréalières pour l'alimentation des animaux, donc nous on fait un métail, c'est un mélange de céréales et protéagineux. Cette année on a fait un métail un petit peu différent des années précédentes. On a donc mis du triticale, de l'avoine, du pois et on a mis aussi de la févrole et de la vesse. On voulait faire en semi-direct du trèfle pour implanter une prairie après la culture des céréales. Mais au vu du temps en fait sec, on a gardé les semences de trèfle à l'abri pour l'an prochain. Et aussi ce qui s'est passé à la ferme, c'est que j'ai perdu mon chien de troupeau qui s'est fait écraser. Zeya, donc, qui avait 7 ans, qui commençait à... Enfin, qui travaillait vraiment bien maintenant au troupeau. Donc, ça fait un manque affectif et puis ça fait une perte aussi au niveau de la ferme parce que un chien de troupeau, c'est vraiment un outil de travail inestimable. Et donc, elle avait fait des petits fin juin. Donc, j'avais gardé un petit mâle, Lopi. Et donc, là, il a 5 mois précisément. Et j'ai été à une formation chien de troupeau hier dans les monts d'Ambazac et c'était vraiment très intéressant. Donc moi je suis assez passionnée par les chiens, particulièrement par les chiens de travail. Je m'étais pas formée avec mon premier chien et j'avais fait beaucoup d'erreurs. Et heureusement j'étais tombée sur une chienne, je dirais bonne patte et avec des aptitudes naturelles assez développées. C'était un bon chien et j'étais un mauvais maître, pour résumer. Et donc là j'ai décidé de faire une formation spécialement dédiée aux éleveurs qui souhaitent éduquer un chien de conduite de troupeau. Et c'était vraiment très très intéressant, donc déjà de voir d'autres chiens un peu plus vieux que le mien. Donc, qui connaissait déjà bien sûr les ordres de base, Lopi les connaît, mais c'est encore, on est encore dans la phase d'éducation plus que de dressage. Il a 5 mois, donc c'est vraiment un petit. Et c'était intéressant d'écouter les expériences des autres éleveurs, d'écouter le formateur qui tourne pas mal en France et de faire les petits exercices. Donc, il y a une première partie en salle où on a vu un petit peu les points théoriques, mais qui sont vraiment des piqûres de rappel importantes pour savoir ce qu'est un chien, ce dont il a besoin et ce que doit faire un maître pour que son chien soit équilibré et puisse travailler de manière autonome au troupeau dans le futur. J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que j'avais fait des erreurs d'éducation et ensuite de dressage avec Zeya. Je fais mieux avec Lopi, mais cette formation, ça m'a encore pointé du doigt les erreurs que je faisais, notamment sur les ordres que je donnais et mon attitude face au chien. Donc voilà, ça ne me dérangeait pas qu'il vienne mettre sa truffe sur ma main. Pour nous, c'est une marque d'affection, ce qui est vrai, mais pour le chien, c'est voilà, je réclame. Et donc, ça m'a fait prendre conscience que pour le chien, je devais vraiment être, disons, le chef de meute, entre guillemets. Donc, ça, c'est très important. En fait, un chien équilibré est un chien qui connaît sa place et qui n'en change pas. Donc, je le faisais déjà avec Lopi, je l'avais mal fait avec Zeya, mais voilà, c'est pour la phase de dressage, le chien ne doit avoir qu'un seul maître. Un maître ferme et cohérent. Je le savais, mais je sais aujourd'hui comment le mettre en pratique de manière plus efficace. Et donc l'après-midi, après cette partie théorique sur l'alimentation, le logement, on a été faire des petits exercices. J'avais déjà appris les ordres de base à Lopi, qui les connaît, qui les fait pas exactement, pas toujours exactement au moment où je lui demande, mais la marche en laisse, bien sûr, sans tirer. Je promène le chien, c'est pas lui qui me promène. Le rappel, le stop, ça c'est un petit peu difficile, mais avec du travail, ça arrive. Assis, il connaissait, je l'avais pas fait coucher encore parce que je pensais que c'était un chien soumis, mais d'après l'expérience du formateur, il n'est pas soumis, mais il est légèrement craintif. Donc il n'y a aucun problème pour lui pour la position couchée. On a fait ses exercices et après, l'éleveur chez qui on était reçu avait préparé un petit lot d'agnelles, une quinzaine je crois. Avec un cercle enfermé dans un cercle en filet, comme les filets mobiles pour les moutons ou les poules. Et donc là, le but du jeu, le chien est à l'extérieur du cercle, il ne doit absolument pas rentrer. Et vous êtes dedans avec les moutons et vous les faites un petit peu bouger. Et là, vous devez observer un petit peu le comportement du chien, s'il s'intéresse déjà à vous, aux moutons ou à la taupinière d'à côté, et il doit naturellement prendre une place à l'opposé. Il doit toujours vous faire face dans le sens maître, troupeau, chien. Ça doit pas être maître, chien, troupeau. Parce que naturellement, les chiens de troupeau reproduisent ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas domestiqués, donc disons quand ils étaient des loups. Ils contournent un troupeau de bisons, d'élans, de... Le chef reste à une place, le chef de meute, et les subalternes, dans un ordre précis. La hiérarchie est très importante chez les chiens qui sont des animaux sociaux. Ils vont donc contourner le troupeau pour le ramener au chef de meute, donc en l'occurrence l'éleveur, pour que le chef de meute mette la bête à mort et que le chef de meute mange en premier et ensuite les autres peuvent manger. Donc ça c'est vraiment une aptitude naturelle du chien de contourner le troupeau et le ramener vers vous. Et donc on a fait des petits exercices. Donc Lopi est un peu jeune, donc il n'était pas très très intéressé par les moutons, il me regardait courir. Donc j'ai des petites leçons à faire à la maison, notamment donc tous les ordres de base à répéter, perfectionner, et puis donc ce travail dans le cercle pour motiver le chien. Donc ça c'est vraiment l'initiation et les exercices de base. Vraiment l'éducation c'est ferme mais en douceur, voilà. Et puis il faut répéter, et il faut pas en demander trop au début au chien parce qu'ils sont encore jeunes, leur temps de concentration est court. Les exercices durent pas plus de 5 minutes. Donc ça c'était mon premier jour de formation. Il y en a 4 autres au niveau initiation et puis après il y a un niveau perfectionnement. Donc ça c'était vraiment, vraiment très intéressant et je suis contente et confiante dans mon petit chien Lopi. L'atelier fibre laine. Alors, je suis dans une période tissage, vous l'avez peut-être vu sur j'ai mis quelques photos sur Instagram de ce que j'avais fait. Donc pour l'instant, je découvre un petit peu ce domaine, donc je suis encore dans les phases de test et d'expérimentation. Je prends mes écheveaux un petit peu ratés de teinture et puis j'essaie d'en faire des écharpes jolies pour des cadeaux de Noël. Et à terme, j'aimerais travailler le mohair en tissage. Donc je vous en avais peut-être parlé, mais en fait, une dame m'a donné un métier à tisser. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai acheté deux livres de base. Learn to Weave, Learn Weaving. Et donc en ce moment, je fais des écharpes. J'ai regardé un petit peu des vidéos également sur YouTube, mais je trouvais le sujet assez peu fourni. J'étais sur des blogs et je trouvais pas vraiment l'information que je voulais, et notamment des vidéos assez intéressantes et zoomées, disons, sur des parties techniques que je maîtrisais pas et que je voulais améliorer. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, je l'avais déjà vu passer cette dame, mais c'était pas le bon moment certainement, j'avais pas creusé le sujet. Mais là, je suis des leçons de Jane Stafford, qui fait des leçons en ligne en fait, de tissage. Elle a commencé ça en 2017. Et elle fait à peu près un épisode de 30 minutes à 1 heure par mois sur un sujet précis. Donc les premiers épisodes sont vraiment du tissage, disons, pur sur le métier à tisser. Vous apprenez à ourdir votre chaîne, à la dresser sur le métier à tisser et puis à tisser. Et elle a vraiment une technique simple, efficace et très bien expliquée. Donc ça s'appelle Jane Stafford Online Guild. Et j'aime bien ce format parce qu'avec la vie à la ferme, c'est vrai que je m'engage pas dans des associations ou des choses qui demandent une présence régulière et je sais jamais si je vais être disponible. Du coup, c'est vrai que je m'engage très peu dans ce genre de choses. Ce qui, des fois, m'embête un peu parce que j'aimerais rencontrer plus de gens et échanger autour de moi. Mais voilà, quand j'ai besoin de regarder un épisode, quand j'ai 30 minutes de libre, le soir ou le midi, c'est facile pour moi. J'ai pas besoin de prendre la voiture. Voilà, je suis peut-être un peu casanière aussi. Donc j'ai commencé ces leçons et j'ai tissé des écharpes assez simples. Alors je saurais pas vous dire les termes français parce que c'est des vidéos en anglais. Mais plain weave ou twill, voilà, c'est les termes. Donc ça c'est les deux structures, disons, de tissage que j'explore et qui me plaisent bien. Et qui sont, je pense, pour les débutants assez... assez facile. Donc j'ai, pendant ces derniers projets, j'ai vraiment beaucoup appris sur la chaîne, comment faire une bonne chaîne avec des fils tendus, parce qu'un fil non tendu c'est un fil qui est hors de contrôle, disons. Comment bien l'enlever de l'ourdissoire et comment la mettre sur le métier à tisser. Donc là j'ai essayé, il y a deux techniques en fait, pour il y a la technique de l'avant vers l'arrière, donc front to back, et il y a la technique de l'arrière vers l'avant, back to front. La première que j'avais fait, c'était back to front et j'aimais bien. Et puis là j'ai essayé sur les conseils notamment de Lorraine de la maison des fibres, la technique front to back, que j'aime bien aussi, mais je crois que si j'avais à choisir, je préfère quand même de l'arrière vers l'avant. Voilà, bon après ça j'imagine que c'est des préférences et chaque méthode marche. Donc voilà, j'ai fait 4 écharpes, mes lisières s'améliorent grandement, notamment sur en fait la séquence de tissage. Donc Jane Stafford conseille pour tisser de ouvrir la chaîne, donc d'appuyer sur vos pédales ou d'actionner vos leviers si vous avez un métier de table, de lancer la navette et puis vous ramenez le peigne sur la chaîne ouverte. Après vous changez votre chaîne, donc vous actionnez les autres leviers d'autres pédales, le peigne en arrière et puis ainsi de suite. Et en fait elle dit que vraiment la séquence est très importante, être constant. C'est impossible d'être parfait, mais l'important c'est d'être constant. Voilà. Donc j'ai des chaînes mieux montées, des lisières plus nettes et je suis contente de voir l'évolution. Et donc là j'ai un petit métier de table à 8 cadres, donc je vais essayer d'autres motifs. Et mon métier à tisser, mon grand métier à tisser, disons à pédale, il a 4 cadres. Ce qui est déjà, enfin, ce qui est bien pour commencer. Donc voilà, on va essayer ça. Et le prochain projet, j'aimerais faire une écharpe avec la chaîne en caprinae et la trame en cocon. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec Jane Stafford et ses épisodes, c'est qu'il y a une chronologie dans les épisodes très intéressante. Et elle parle du tissage avec passion, donc ça c'est toujours très intéressant. Mais elle aborde aussi les points techniques très simplement et j'aime vraiment ce qu'elle transmet et comment elle le transmet. Donc j'ai pas repris de tricot à la main, j'ai fini un châle au crochet et sinon j'ai fait pas mal d'écharpes à la machine pour mes ventes de Noël. Et donc ça aussi, plus on en fait, plus on est à l'aise, plus c'est rapide. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi en gros blocs de temps. Voilà, c'est tissage, on fait que du tissage, tricot machine, c'est que du tricot machine. Et puis j'aimerais bien avoir le temps de filer à nouveau cet hiver pour me faire une écharpe tissée avec du filet main, quoi. Parce que le filet main, ça a quelque chose de vivant et d'inimitable. Lecture. Donc dans le sommaire, je vous parlais du livre que je suis en train de lire. Moi, il me reste 2 chapitres. Ça s'appelle Cœur de loup de R.D. Lawrence. Donc R.D. Lawrence est né sur un bateau, c'est rigolo, dans les eaux territoriales de l'Espagne. Et son père était anglais et sa mère espagnole. Il a servi dans l'armée britannique en 1940 et en 1944 il a servi en France où il a été blessé et rapatrié. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il a commencé des études de biologie à Cambridge et qu'il a travaillé comme journaliste scientifique spécialisé en biologie. En 1954, il va au Canada et il habite dans l'Ontario du Nord et il s'intéresse aux animaux qui vivent là-bas et à leur environnement naturel. Et ce livre, c'est un petit peu, je dirais, un journal d'un homme de terrain qui observe la nature et la nature sauvage, une vision écologique qui nous fait prendre conscience de l'importance de la conservation de la nature ou du moins de ne pas la dégrader. Je vais vous lire le résumé de ce livre. Le Grand Nord, trois syllabes qui débouchent sur l'infini. Quelque part, à l'autre bout du monde, subsistent encore des espaces vierges, des champs de neige immaculés, des forêts où l'ours et l'élan vagabondent à leur guise. Seule la nature y impose sa loi, à ceux du moins qui sont de taille à l'accepter. Un journaliste anglais a relevé le défi. Robinson volontaire, il s'est enfoncé dans ce désert blanc où, durant des mois, le thermomètre descend à 40 degrés au-dessous de zéro. Pour accomplir un exploit? Non. Pour savourer la grisante liberté de la vie à l'état sauvage. Et donc dans ce livre, il raconte un petit peu sa rencontre avec un chien qu'il appelle Yukon, un chien loup, et dont il partage le quotidien pendant un peu plus d'un an. Et donc dans ce livre, il raconte leurs aventures. Donc c'est un livre très court que j'avais déjà lu il y a 6 ans, et puis que j'ai eu envie de relire après que mon Zeya, ma chienne, soit morte. Et c'est vraiment un livre frais par les températures où l'histoire se passe, mais aussi par l'écriture simple et directe dans un sens. Donc on suit un peu la vie de R.D. Lawrence quand il était donc dans le Grand Nord et il était trappeur en fait pour gagner sa vie et il faisait un petit peu de bûcheronnage pour des sociétés. Donc pour vivre dans le Grand Nord, il avait quelques chiens. Et un jour, un de ses amis, ou du moins connaissance plutôt, lui vend un chien famélique, en mauvais état, agressif. Et en fait, c'est l'histoire de leur relation, ce que l'un apporte à l'autre. Et c'est vraiment un très très beau livre. Et moi j'aime beaucoup les livres qui se passent dans le froid. Dans le froid, des gens seuls. Et ça rassemble un peu tout ça. C'est d'une justesse rare. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Cœur de loup de R.D. Lawrence. Curiosité. Alors dans ce segment, je vous avais dit la dernière fois que je souhaitais vous parler des aliments fermentés en faisant des recherches pour la conservation des aliments. Parce qu'en fait, cet été, on a fait pas mal de tomates au naturel, coulis, et on aimerait arriver à en faire de plus en plus chaque année, notamment les petites carottes qui peuvent pas se vendre. Nous, on pourrait les mettre en bocaux et manger l'hiver, les haricots verts, enfin voilà. Et donc, dans les méthodes de conservation, il y a énormément de méthodes. Il y a la mise en bocaux, il y a le séchage, le salage, conservé par le vinaigre. Et il y a notamment les aliments fermentés. Donc, les aliments fermentés, ce sont des aliments qui ont été transformés par des bactéries, des levures, des moisissures ou des champignons. Donc, c'est souvent une réaction qui se développe sans oxygène. En présence d'oxygène, les microbes se multiplient. Donc sans oxygène, les microbes sont stressés et ils luttent un peu pour vivre. Et pour ça, ils fabriquent des molécules qui vont leur permettre de tuer les microbes concurrents. Et donc ces molécules, c'est l'alcool, l'acide lactique, l'acide acétique, enfin tout ça. Et durant ce processus, ces micro-organismes, en fait, vont émettre d'autres molécules, notamment des substances aromatiques, des vitamines, et tout ça, ça va se transformer en goût, en texture, et ça va permettre la conservation des aliments. Donc, dans la vie quotidienne, il y a énormément d'aliments fermentés. Le pain, les viennoiseries, les crêpes bien faites, la choucroute évidemment, je pense que c'est le plus connu, les cornichons, les olives. Au niveau du fromage, des yaourts, le beurre, la crème, tout ça ce sont des fermentations. Le jambon, le saucisson, la moutarde, le vin bien sûr, la bière, le vinaigre, mais aussi le thé, le café, le chocolat, etc. Donc ça intervient quand même dans énormément de domaines et ça a des vertus intéressantes pour l'homme, la flore intestinale. Donc comme je vous disais, il y a différentes fermentations. Donc la fermentation lactique, qu'on appelle aussi lactofermentation. Donc ça, c'est des bactéries qui mangent du sucre et qui les transforment en acide lactique. Donc c'est la fermentation, cette fermentation lactique, ça permet la production des yaourts, des fromages, de la choucroute également, certains poissons, du hareng. Alors il y a une autre fermentation, il y a la fermentation alcoolique. Donc là, c'est plus des bactéries, mais ce sont des levures en fait. Et donc ça transforme le sucre en alcool, en dioxyde de carbone, enfin voilà. Donc ça amène de l'arôme dans les produits. Il y a également la fermentation acétique. Donc ça suit la précédente fermentation parce qu'elle transforme l'alcool en acide acétique, ce qu'on connaît bien, le vin en vinaigre. Il y a la fermentation malolactique. Donc ça, c'est pour, par exemple, adoucir certains vins qui pourraient être acides. Il y a ce qu'on appelle la pourriture noble. Il y a également les fermentations propioniques. Donc ça, c'est des bactéries qui sont actives, notamment pour les fromages et les fromages à pâte cuite. Donc le comté, le gruyère, l'emmental. Cette bactérie qui fait les petits trous dans les pâtes de fromage. Et ensuite, il y a la fermentation butyrique. Donc ça, c'est le beurre. Au Tibet, il y a beaucoup de beurre fermenté, de lait fermenté. Donc voilà un petit peu disons, les bases de la fermentation. Donc il y a deux auteurs assez intéressants au niveau de la fermentation, puis je pense qu'ils sont les plus connus et les plus publiés. Il y a Marie-Claire Frédéric qui a écrit pendant longtemps un blog et qui a sorti un livre qui s'appelle Ni cru ni cuit. Donc ça, c'est un livre très intéressant parce qu'il y a des recettes, mais il y a aussi toute l'histoire de la fermentation des aliments parce que c'est très très ancien. Et il y a également Sandor Elix Katz qui lui a œuvré depuis des années pour les aliments fermentés et notamment la diversité de goûts et de terroirs que ça apporte. Il est un petit peu vent debout contre, disons, l'industrie agroalimentaire qui fait des produits très standardisés, très aseptisés. Donc voilà, donc au début, en fait, l'histoire des aliments fermentés, c'était dans un objectif de conservation des aliments. Et puis, j'imagine que les hommes se sont aperçus petit à petit que les aliments fermentés, la bière certainement, je pense au début, le pain, ça permettait de conserver des aliments et de se nourrir et de manger sans danger. Donc la fermentation, ça crée des bactéries et des micro-organismes très, très importants, notamment le lait fermenté. Donc les fromages, les yaourts, c'est ça constitue un des plus anciens, une des plus anciennes lactofermentations. Et donc c'est un des produits les plus faciles à faire, je dirais, à la maison. Les yaourts, la choucroute, et c'est surtout un produit vivant, qui n'est pas le cas dans les yaourts du commerce où il n'y a à peu près aucun ferment vivant utile. Donc la lactofermentation crée par exemple du lactobacillus casei. Donc ça stimule l'immunité, ça combat les virus. Enfin, ça a vraiment des propriétés intéressantes. Et les légumes fermentés, donc c'est ça qui m'intéressait au départ. Et puis après, j'ai appris qu'il y avait pléthore de fermentation. Donc pareil, c'était un but de conservation. Les légumes fermentés, c'est vraiment les véritables médicaments, je dirais. Et les Égyptiens, notamment les Grecs, les utilisaient beaucoup. Alors, pour les légumes, il y a ce qui est assez facile à fermenter, c'est les carottes, les betteraves, ça, en plus c'est vraiment très joli dans le bocal, les navets, les radis, les topinambours, les brocolis, tous les choux verts, les choux rouges, le concombre et même certains fruits. Donc c'est vraiment très simple en fait, vous mettez les légumes dans un pot avec un peu de sel, ça vous fait des aliments qui fermentent, donc ça demande un peu de temps. Marie-Claire Frédéric le dit et l'écrit dans son livre, ce sont des aliments qui sont ni crus ni cuits. Voilà, c'est une autre catégorie d'aliments. Et puis il y a aussi également les boissons lactofermentées, donc on connaît bien sûr le kombucha qui a des vertus désintoxicantes et anticancérigènes. Elle est très bonne aussi pour la flore intestinale parce qu'elle inhibe les bactéries responsables de la putréfaction intestinale. Elle améliore le métabolisme. Enfin voilà, il y a énormément de propriétés. Donc moi je me suis renseignée un petit peu sur tout ça et puis j'ai essayé de faire des fermentations. Donc j'ai commencé par des choses simples et j'ai notamment donc une recette que j'adore et que je refais depuis cet été. C'est l'ail fermenté au miel. Et ça, alors bon, j'adore le miel, j'adore l'ail séparément, mais les deux ensemble, fermenté, c'est vraiment c'est délicieux. Alors c'est pas très compliqué à faire et maintenant il y a toujours un pot de prêt dans notre frigo quoi. Et donc l'ail, les gousses d'ail, on les met dans les préparations, les lentilles, les haricots secs, enfin voilà, dans le poulet rôti, on met quelques gousses d'ail. Et puis le miel qui devient liquide, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les sauces de salade. C'est délicieux, mais aussi dans vos plats de tous les jours. Voilà, donc ça c'est une première fermentation que j'avais testée, que j'aime beaucoup. Et puis l'autre fermentation que j'ai testée, c'est les betteraves. Et pareil, c'est vraiment très bon, simple à faire. Et puis pour l'hiver, je trouve que c'est un mode de préparation de la betterave que j'aime beaucoup. Donc nous, on mange souvent les betteraves crues en été parce qu'elles sont assez fraîches et j'aime bien le goût que ça a. Bon, personnellement, j'ai un peu plus de mal avec les betteraves crues en hiver parce que je trouve que ça sent vraiment le sol et la terre. Mais du coup, le fait de les préparer en bocaux et de les faire fermenter, c'est délicieux. Donc voilà pour ce petit segment curiosité. Donc c'est vraiment abordé de manière générale, hein. Il y a vraiment des ouvrages très intéressants, très complets, des livres de recettes. Souvent, il n'y a pas besoin d'ingrédients extraordinaires, du poivre de je ne sais où. Enfin bref, je vous le conseille. C'est bon au goût. Ça permet une conservation des aliments. Ça a des propriétés très intéressantes et c'est accessible, quoi. Voilà pour mes mois de septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça a piqué un petit peu votre curiosité. Et je vous souhaite un agréable mois de décembre. Et j'essaierai de revenir très vite avec plein de nouvelles choses à vous raconter sur la ferme, sur mes petites créations laineuses, mes lectures et puis ce que j'ai découvert entre temps. Je vous remercie du temps et de votre écoute et je vous dis à très vite. Et surtout, restez curieux.